Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des dossiers les plus épineux de la 5ème République et pas encore élucidé, l'attentat de Karachi le 8 mai 2002 au Pakistan. Une intrigue qui fait peser de lourds soupçons sur certains de nos responsables politiques. Ouvrir le dossier Karachi, c'est tenter de se glisser dans les failles d'un immense mur du silence. Ou, par analogie encore, c'est essayer d'ouvrir un coffre-fort enfoui dans les sous-sols de l'État. Cette affaire est aussi un immense puzzle politique, diplomatique, industriel, militaire et financier. Un puzzle dont les pièces ont été disséminées aux quatre coins du globe, dispersées dans plusieurs dossiers judiciaires, mises à l'abri dans des coffres blindés ou encore sous la tutelle du secret défense. Un cadenas dont beaucoup de journalistes et enquêteurs essaient toujours de trouver la combinaison. Ici, dans les arcanes de la République, la morale et la vertu cèdent la place à l'opacité et au secret. Ce qu'on a compris, malgré tout, c'est qu'il y a deux affaires dans l'affaire, chacune avec ses propres questions et avec le sentiment que toutes les deux semblent être liées. Pour en parler, après le récit, nous avons invité le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Il est l'auteur, avec Fabrice Lhomme, du livre « Le contrat » et plus récemment, il est revenu sur cette affaire dans son dernier ouvrage, intitulé « Le sens des affaires », paru en 2014 chez Kalman Lévy. Fabrice Arfi est également l'auteur d'un documentaire sur le sujet, intitulé « L'argent, le sang et la démocratie ». C'était en 2013. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Romain Mahé.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mercredi 8 mai 2002, il est 6h15. Le jour se lève sur Karachi, immense mégalopole de 18 millions d'habitants située sur les rives de la mer d'Arabie. Poumon économique du Pakistan, la ville est aussi l'épicentre des tensions interethniques et religieuses. Ici, dans cette fourmilière de rues et de ruelles bruyantes et étouffantes, on vit au rythme des attentats, des enlèvements et des fusillades. Un quotidien tragique devenu malheureusement banal avec le temps. À l'écart de cette agitation, dans le sud de la ville, le port abrite le quartier général de la marine pakistanaise. L'endroit est stratégique pour les autorités d'Islamabad, car c'est ici qu'on construit des sous-marins d'attaque, à l'écart des regards indiscrets. De classe Agusta, c'est son nom. Ces machines conventionnelles, au sens où elles n'embarquent pas de propulsion nucléaire, sont de fabrication française. Depuis 1994, un contrat d'armement avec transfert de technologie lie la direction des chantiers navals, la DCN de Cherbourg, à la Navy pakistanaise. Il n'est donc pas rare de croiser dans l'arsenal des techniciens et des ingénieurs français en charge de superviser les différentes phases de la construction. Par groupe d'une trentaine, il se relaie ici, au Pakistan, pendant plusieurs semaines, tout au long de l'année. En cette matinée du 8 mai 2002, le temps est déjà chaud et sec. À l'hôtel Avary, les techniciens de la DCN déjeunent et préparent leurs affaires. Parmi eux, il y a Gilles Sanson, un mécanicien. C'est son 5e voyage au Pakistan en l'espace de 3 ans. Il travaille à la confection de tubes lance-torpilles pour les sous-marins. Et si, comme ses collègues, il a accepté de venir au Pakistan, c'est pour l'importante prime promise par son employeur, mais aussi parce qu'on lui a fait comprendre que ses séjours étaient nécessaires pour la suite de sa carrière à la DCN. Il est 7h30 lorsque le bus arrive devant l'hôtel. Gilles monte à bord, salue le chauffeur et l'agent de sécurité armé qui accompagne le groupe. Puis, un à un, ses collègues le rejoignent. Premiers éclats de rire, première blague. À 7h40, quelques centaines de mètres plus loin, le bus fait un second arrêt devant l'hôtel Sheraton, là où sont hébergés les ingénieurs de la DCN. Le reste des troupes monte à bord, quand soudain, le bus est violemment percuté sur le flanc gauche, puis c'est le chaos. S'ensuit une formidable explosion, des sirènes, des cris. Au milieu de toute cette agitation, le bus est là, éventré, en flammes. Il est 7h45 à Karachi. La situation vient de basculer dans l'horreur. décalage horaire, la France est encore profondément endormie lorsque les téléphones de la cellule de crise des Quai d'Orsay se mettent à sonner. Les premières informations en provenance du consulat général de Karachi ne laissent planer aucun doute sur la gravité de la situation. Oui, il s'agit bel et bien d'un attentat à la bombe et il y aurait de nombreuses victimes françaises. Il est 7h du matin, heure de Paris, lorsque la nouvelle fait le tour des ministères. Les mines sont graves. Nous sommes le 8 mai, jour de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Le président de la République, Jacques Chirac, doit se rendre sous l'Arc de Triomphe pour la cérémonie annuelle, en présence des anciens combattants. Averti de la situation, le président décide malgré tout de ne pas bouleverser son agenda de la journée. C'est ainsi qu'à 10h, ce 8 mai 2002, sous le regard des caméras, la France présente au monde deux visages. À Paris, la cérémonie bat son plein au des Champs-Élysées. Sur la tribune installée place de l'Étoile, on assiste à des scènes d'embrassades et de félicitations entre les ministres du nouveau gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Au même moment, à 250 km de là, sur le site de la direction des chantiers navals à Charbourg, l'ambiance est tout autre. Comme en témoigne cette scène filmée sur le vif par des journalistes.
Ivre de douleur, cette jeune femme vient d'apprendre la mort de son mari tué dans l'attentat. Il avait 27 ans. Cherbourg est en état de choc. 7 salariés de la direction des chantiers navals ne rentreront pas. Toute la journée, les familles se rendent à la cellule d'urgence pour obtenir des informations, du réconfort ou malheureusement remplir les dernières formalités.
Mon frère est décédé ce matin. Dans
Et comment l'avez-vous appris ?
Disons que moi j'étais chez ma belle-sœur, savoir... Elle n'était pas trop au courant, et puis le directeur de l'Arsenal est venu le prévenir.
Cherbourg, ville meurtrie, compte ses morts, 11 au total. Parmi eux, des pères de famille, des frères, des cousins, des amis, des voisins. Toute la ville est sous le choc. À cela s'ajoutent 14 blessés, dont certains dans un état grave. Les informations en provenance de la cellule de crise de Quai d'Orsay s'égrènent. Minute après minute, devant la préfecture maritime de Cherbourg, les familles arrivent, les unes après les autres. À 13h, la nouvelle de l'attentat fait l'ouverture des journaux de télé et des flashs radio. Les Français découvrent alors des images d'une violence inouïe, notamment cette carcasse de bus déchiquetée sur laquelle on voit des hommes aller et venir pour dégager ce qui semble être des corps. Scène apocalyptique. Sur France Inter, le correspondant de RFI, Pierre Pracache, raconte.
Les témoins présents ce matin devant l'hôtel Sheraton à Karachi font part de véritables scènes d'horreur. Des débris humains éparpillés à des dizaines de mètres à la ronde, des blessés gravement mutilés appelant désespérément à l'aide. Manifestement, l'explosion a été d'une violence inouïe, secouant la ville sur des kilomètres. Elle s'est produite un peu avant 8 heures alors que les ingénieurs français de la DCN prenaient place dans la navette. C'est alors qu'une voiture piégée qui attendait apparemment à proximité est venue percuter le bus de plein fouet. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus qu'un amas de tôles et des membres dispersés. Dans un premier temps, ce sont les passants qui ont arrêté les automobilistes pour emmener les blessés à l'hôpital. Puis le périmètre a été bouclé et les secours sont arrivés.
Par communiqué de presse, l'Élysée réagit et affirme tout mettre en œuvre pour rapatrier les survivants et faire toute la lumière sur cet attentat. Dans l'urgence, Jacques Chirac demande à sa nouvelle ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, de se rendre immédiatement sur place. Le lendemain, à son arrivée à Karachi, la ministre est accueillie par les plus hauts responsables du pays. Sur le lieu de l'attentat, les enquêteurs du parquet antiterroriste font les premières constatations et les premiers prélèvements. Dernière étape de ce voyage, de quelques heures à peine, l'hôpital Aga Khan, au chevet des blessés. Michèle Alliot-Marie s'entretient avec plusieurs d'entre eux, dont Jérôme Eustache, chaudronnier à la DCN.
On s'arrêtait pour prendre des collègues à l'hôtel. Et c'est au moment que les collègues montaient qu'une explosion s'est produite. On est un peu abasourdi, un peu assommé, donc les choses vont quand même assez vite. Puis on regarde déjà si on est intact et puis après on est déjà dans l'ambulance et les premiers soins arrivent.
Vous avez perdu beaucoup de vos collègues ?
Je sais pas.
À quelques mètres de lui, tout aussi traumatisé, c'est Gilles Sanson. Il est le seul à ne pas avoir perdu connaissance lors de l'explosion. Il est aussi le premier à qui les ambulanciers ont porté secours. À la force des bras, il a réussi à s'extraire du bus, en rampant. Aux urgences, à l'hôpital, il a vu arriver les uns après les autres les corps de ses collègues intégralement recouverts d'un drap blanc souillé de rouge. Comme Jérôme Eustache et tous les autres survivants, Gilles était assis à l'avant du bus, et c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Quelques heures plus tard, les 14 rescapés de l'attentat prennent place à bord d'un Airbus médicalisé qui les ramène en France. La fin des cauchemars pour certaines des familles, le début des questions pour les autres. Au même moment, dans l'Hexagone, on cherche à comprendre pourquoi et surtout qui a pu commettre un tel acte. En plein contexte post-11 septembre, quelques semaines après l'enlèvement et le meurtre du journaliste américain Daniel Pearl, ici même à Karachi également, tous les regards se tournent naturellement vers Al-Qaïda. Toute la presse se fait l'écho de cette interrogation, mais les avis divergent. Le journal Le Monde joue la carte de la précaution en parlant d'une possible piste islamiste. L'hebdomadaire L'Express, lui, est plus catégorique dans son article intitulé « La marque de Ben Laden ». Sur France Inter, le journaliste Lionel Thompson propose son décryptage.
Al-Qaïda, dont les réseaux peuvent très bien agir au Pakistan. D'une part, la frontière avec l'Afghanistan est poreuse. De nombreux talibans ont trouvé refuge côté pakistanais. Des hommes d'Al-Qaïda ont pu s'y replier aussi. On a même dit à plusieurs reprises que Ben Laden lui-même pourrait s'y trouver. D'autre part, Al-Qaïda possède des appuis au Pakistan et plusieurs groupes islamistes radicaux ont appelé au djihad contre les pays qui participent à la guerre contre les talibans. Ils veulent aussi déstabiliser le président Musharraf, coupable à leurs yeux d'avoir choisi le camp de l'Occident. Ces groupes prolifèrent à Karachi, la piste d'une représailles contre la France, pays occidental qui participe à la guerre en Afghanistan, de la part d'Al-Qaïda ou d'un groupe qui le soutient, est plausible.
Effectivement, au Pakistan, avant même toute enquête, les autorités désignent déjà Al-Qaïda et ses réseaux comme les commanditaires de l'attentat. Pour montrer toute sa bonne foi, la police pakistanaise effectue des descentes dans les milieux islamistes et procède à de multiples interpellations. On diffuse également les portraits robots d'individus déjà fichés pour terrorisme et une récompense de 2 millions de roupies, 37 000 euros. Elle est offerte à quiconque permettra l'arrestation des suspects. Des mesures qui n'apportent pas d'éléments concrets, mais qui donnent l'impression que l'enquête avance. Au-delà de la piste criminelle, l'opinion publique s'interroge également sur la responsabilité éventuelle de la DCN dans cette affaire. Était-il prudent d'envoyer des personnels français au Pakistan alors que la situation sur place depuis le 11 septembre était des plus préoccupantes? Interviewé sur France 2, le directeur des chantiers Jean-Marie Poinveuf répond.
Nous n'avions aucune menace qui nous avait été signalée. Bien entendu, la sécurité fait partie de nos priorités. Nous avions pris des mesures en coopération avec les autorités pakistanaises pour assurer la protection de nos personnels. C'est ainsi que ces personnels se trouvaient dans un bus de la marine pakistanaise, protégés par la marine pakistanaise, et que nous avions rassemblé l'ensemble de nos personnels dans deux hôtels pour pouvoir assurer au mieux leur sécurité.
Lundi 13 mai 2002, Cherbourg. Cinq jours après le drame, la pluie et le froid s'invitent à la cérémonie d'hommage national aux victimes de l'attentat. L'émotion est immense dans toute la ville. Preuve de leur soutien et de leur compassion, les commerçants ont baissé leurs stores et accroché des rubans noirs au fronton de leurs échoppes. Les rues de l'agglomération sont vides. Dans les usines alentours, on observe une minute de silence. En cette fin de matinée de mai, les esprits sont en novembre. Ici, tout le monde ou presque connaît quelqu'un qui travaille ou travaillait à l'Arsenal. Paradoxe de la situation, les familles des disparus n'ont ni choisi ni souhaité d'aller leur peine au grand jour devant une armée de photographes et de caméramans. Mais aujourd'hui, personne ne semble leur laisser le choix. Sur le lieu de la cérémonie, les parents et proches des victimes sont assis sous un chapiteau blanc. Devant eux sont alignés les cercueils recouverts de drapeaux tricolores avec à l'extrémité de chacun la photo du disparu. À 11h, Jacques Chirac prend la parole d'un ton solennel.
La France est en deuil. Cherbourg est meurtri. Ce crime est monstrueux. Ses auteurs seront punis. Il ne peut y avoir de sanctuaire pour les terroristes. C'est un combat que nous avons engagé et que nous poursuivrons sans relâche en France et à l'étranger. Ma détermination, comme celle du gouvernement, est totale. Nous ne céderons ni à la menace, ni au chantage.
Une fois son discours terminé, Jacques Chirac fait quelques pas en direction des familles et se penche sur chaque cercueil sur lequel des coussins de velours bleu sont posés. Le président y agrafe la Légion d'honneur. Au micro de France Inter, une employée de la DCN retrace le parcours des 11 victimes de l'attentat. À quelques mètres de là, Jean, ancien de la DCN, fait part de son émotion.
Je perds un copain, un frère plus qu'un copain, c'est un frère, puisque je l'ai vu rentrer à l'arsenal après ses études. Sur le sous-marin, il fallait quand même bien s'entendre. Il fallait une équipe soudée. Claude, petit Claude. J'aimais l'appeler petit Claude. Je ne pensais pas aujourd'hui, moi, que ça soit moi, à l'âge âgé 62 ans, que ça soit moi qui aille le mettre à sa dernière demeure.
Six jours plus tard, alors que l'émotion en France est encore vive, un dénommé Moussa revendique au Pakistan l'attentat de Karachi ainsi que l'assassinat du journaliste américain Daniel Pearl, le tout au nom d'une obscure organisation islamiste. La piste est mince et malgré les doutes de certains experts, la justice va l'explorer. À Paris, une information judiciaire est ouverte contre X pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'enquête est confiée au juge Jean-Louis Bruguère. Sous sa tutelle, l'enquête s'oriente dans une seule direction, la piste islamiste. Le juge en est convaincu, l'attentat de Karachi, c'est la réponse d'Al-Qaïda à la présence militaire française en Afghanistan. Un raisonnement simple, logique d'ailleurs, l'actualité de cette fin d'année 2002 semble lui donner raison. Dans un clip vidéo diffusé sur la chaîne Al Jazeera et dans sa logorée habituelle, Oussama Ben Laden inclut l'attentat de Karachi dans la liste des ripostes face à l'impérialisme occidental. Un mois plus tard, en décembre, la police pakistanaise arrête deux hommes suspectés d'avoir fabriqué la bombe et organisé l'attentat. Pendant les mois qui suivent, les choses se tassent. Il faudra attendre la première commémoration de l'attentat en mai 2003 pour que le dossier Karachi fasse de nouveau reparler de lui. Pour l'occasion, le juge Bruguère reçoit les familles des victimes au palais de justice de Paris et s'entretient avec eux des avancées de l'enquête. Face aux caméras, il affirme qu'il poursuivra ses investigations jusqu'au bout et qu'il traduira les coupables devant les tribunaux français.
Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés dans l'action, dans la résolution, donc d'aboutir. Bon. Et aux côtés du reste de l'ensemble des autorités françaises et au premier lieu du ministère public dont la présence à mes côtés de M. Maître montre clairement l'intérêt apporté par le parquet et le soutien et dans l'action donc de l'ensemble de la justice.
Quelques semaines après les déclarations du juge Bruguère, la justice pakistanaise condamne à mort les deux suspects déjà en détention. Le message est clair, 13 mois tout juste après l'attentat, l'affaire est close. Pourtant, de l'avis de nombreux experts, toute la lumière n'a pas été faite dans ce dossier. De plus, comment expliquer que les analyses des enquêteurs français et pakistanais n'aillent pas dans le même sens? Comment justifier enfin que la justice française ne se soit concentrée que sur cette piste Al-Qaïda? 4 ans plus tard, un nouveau juge d'instruction est nommé. 4 ans pour que des journalistes de Mediapart mettent la main sur d'incroyables documents pour qu'enfin l'enquête soit relancée et que l'affaire de l'attentat de Karachi ne s'embourbe pas.
तू कर ढोलना रो रख में दिवसरा तू कर ढोलना क्षमा पिया तेरे बिना तू कर Yeah.
On avait tout de suite évoqué un acte des islamistes quand un autocar avait explosé à Karachi, au Pakistan, le 8 mai 2002. Cet attentat avait entraîné la mort de 14 personnes, dont 11 Français. Des Français employés à la construction de sous-marins livrés par la France à la marine pakistanaise. Depuis quelques jours, une autre piste est mise en avant, celle d'officiers supérieurs pakistanais. Ils auraient commandité cet acte criminel, mécontents de ne pas avoir empoché les commissions financières qui leur auraient été promises par notre pays.
Automne 2008, alors que le dossier Karachi semblait avoir trouvé sa place dans les cartons d'archives au fond des bibliothèques du Palais de Justice de Paris, l'affaire refait soudainement surface et s'invite en une de l'actualité grâce aux révélations de Mediapart. Deux des journalistes du quotidien indépendant en ligne ont mis la main sur deux documents de premier ordre. Des pièces saisies par les juges à la DCN dans le cadre d'une enquête sur une toute autre affaire et qui viennent contredire la version officielle de l'attentat sur laquelle tout le monde, enfin ou presque, s'était entendu, l'attentat terroriste style Al-Qaïda. Au cœur de l'article de Mediapart, signé par Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme, on découvre des extraits sidérants des deux précieux documents qui, lus l'un après l'autre, permettent de décrypter cette affaire sous un angle inédit. Le premier d'entre eux est un rapport qui porte le nom de Nautilus, rédigé par un ancien haut gradé du contre-espionnage français, Claude Thévenet. Il est daté du 11 septembre 2002, soit 4 mois seulement après l'attentat. On peut y lire entre autres. Après de nombreux contacts, tant en Europe qu'au Pakistan, nous parvenons à la conclusion que l'attentat de Karachi du 8 mai 2002 a été réalisé grâce à des complicités au sein de l'armée et au sein des bureaux de l'ISI, les services secrets pakistanais. L'auteur du rapport poursuit « Les personnalités à l'origine de l'attentat sont des militaires qui ne poursuivaient qu'un but financier, à savoir le non-versement de commissions qui leur avait été promise par la France à l'occasion de la signature du contrat portant sur les sous-marins Agosta en 1994 avec le gouvernement d'Édouard Balladur. Commission arrêtée sur ordre de Jacques Chirac. » Agosta. Le même nom que celui des sous-marins sur lesquels travaillaient à Karachi les techniciens et ingénieurs de la DCN au mois de mai 2002 lorsqu'a eu lieu l'attentat. Plus étonnant encore, le second document qui semble justifier les insinuations contenues dans le premier. Il s'agit d'un mémorandum de l'ancien directeur financier de la direction des chantiers navals, Gérard-Philippe Menayas, rédigé le 29 avril 2008 par un homme que son entreprise accusait de tous les maux pour mieux se protéger de ses propres dérapages. Il résume de manière synthétique 20 ans de corruption par plusieurs gouvernements sur plusieurs contrats internationaux en lien avec la DCN. Le mémorandum explique de façon simple comment l'État, actionnaire majoritaire, a corrompu des premiers ministres, des chefs d'État, des militaires pour arracher des contrats d'armement et comment une partie de cet argent est revenue en France sous forme de rétrocommission pour financer des campagnes électorales notamment. Pour Maître Olivier Maurice, avocat des familles, ces révélations sont évidemment d'une extrême gravité.
C'est une très grande surprise et une très grande colère de la part des familles, parce qu'elles s'aperçoivent que, au plus haut niveau de l'État français, on avait des informations dès 2002 et qui pouvaient faire un lien entre le mobile de cet attentat anti-français et une affaire de vente de sous-marins qui se serait passée dans des conditions assez troubles, voire occultes, avec même des possibilités de rétrocommission au sein d'un certain nombre de partis politiques français. Les familles des victimes souhaitent maintenant tenir des explications. Comment se fait-il qu'on leur a caché un rapport établi depuis 2002, alors que ce rapport fait un lien direct entre cet attentat et cette affaire de vente de sous-marins? Et je pense que nous sommes maintenant sur une piste qui est extrêmement sérieuse. C'est parce que la parole de la France n'a pas été honorée qu'on aurait tué des ressortissants français.
Ces nouveaux éléments intéressent la justice et en particulier le nouveau juge en charge du dossier, Marc Trévidic. Il se tourne d'abord vers la DGSE, notre service d'espionnage. Après plusieurs mois d'attente et plusieurs vagues de déclassification, il obtient des éléments inédits qui vont dans le sens de ceux déjà produits par Mediapart. En effet, dans plusieurs notes confidentielles, la DGSE exclut elle aussi l'implication d'Al-Qaïda dans l'attentat du 8 mai 2002. Grâce à ces nouveaux éléments à sa disposition, le juge Trévidic rencontre les familles des victimes de l'attentat à Cherbourg et leur annonce que la piste Al-Qaïda est abandonnée. Désormais, il faut envisager un autre scénario. À la même période, au Pakistan, la justice fait volte-face et acquitte les deux suspects condamnés à mort pour l'attentat de Karachi. Le premier château de cartes judiciaire s'écroule et l'affaire prend un autre visage. Sur fond d'attentat, il est maintenant question de détournement d'argent public. Pendant les mois qui suivent, l'affaire Karachi s'invite de nouveau à la une de toute la presse. Les enquêtes que mènent des journalistes de Mediapart, du Monde ou encore de France Inter débouchent toujours sur la même piste, ou plutôt sur les mêmes noms. Édouard Balladur, Premier ministre au moment de la signature du contrat Agosta, savait-il qu'une partie de l'argent des commissions allait revenir en France pour financer sa campagne? C'était le cas. On voit aussi à plusieurs reprises le nom de François Léotard, lui qui était ministre de la Défense et qui a supervisé de bout en bout la signature du marché sur les sous-marins. Mais sans conteste, celui qui retient toute l'attention, c'est Nicolas Sarkozy, ministre du Budget au moment des faits. Oui, bah, quel lien avec une vente de sous-marins, me direz-vous? Bon, il est simple. En France, quel que soit le contrat d'armement signé par l'État, il revient toujours au ministre du Budget de l'étudier et de le signer. Donc, s'il y a eu commission et ou rétrocommission, comme l'affirment les documents produits par Mediapart, alors Nicolas Sarkozy ne pouvait pas les ignorer. Le 19 juin 2009, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, devenu entre-temps président de la République, Nicolas Sarkozy est pour la première fois interrogé sur l'affaire. La réponse est du genre « circulez ».
Philippe Alfroy de l'agence... Monsieur le Président, à votre droite. Philippe Alfroy de l'agence France-Presse. Selon les informations qui ont été rapportées hier à la suite d'une réunion entre les parties civiles dans l'affaire de l'attentat de Karachi et les juges d'instruction, il semblerait que l'origine de l'attentat ne soit pas due à un acte terroriste, mais plutôt à des représailles de l'État pakistanais après le non-versement de commissions. On parle même de rétro-commissions qui auraient dû alimenter la campagne électorale d'Edouard Balladur en 95. Est-ce que, en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords?
Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Soit il y a des éléments, donnez-les nous. C'est grotesque. Alors, raisonnement, là. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? On est dans un monde où tout se sait, où la notion de secret d'État n'existe plus. Et vous, vous étiez pas au courant non plus, non? Non, peut-être pas. Vous, vous étiez peut-être journaliste à cette époque-là, peut-être à ce moment-là, je vous arrête. Non, non pardon, hein. je ris pas du tout, parce que Karachi, c'est la douleur de famille, tout comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille répondre là-dessus?
Pour l'autorité judiciaire, il existe un fort soupçon. Le camp Balladur aurait financé sa campagne présidentielle de 95 en partie grâce à de l'argent des rétrocommissions sur le contrat des sous-marins Agosta. Au fil des semaines, de nouveaux noms font d'ailleurs leur apparition dans la presse en marge du dossier d'instruction. Ils mettent en lumière tout un réseau de l'ombre qui aurait opéré derrière cette affaire de vente d'armes au Pakistan. Parmi eux, Ziad Takieddin, mystérieux homme d'affaires libanais qui a servi d'intermédiaire à la transaction. Nicolas Bazir, directeur du cabinet d'Edouard Balladur et proche de Nicolas Sarkozy. Apparaît aussi un autre nom, celui de Thierry Gobert, chef du cabinet au ministère du budget d'alors, Nicolas Sarkozy. Tous trois sont soupçonnés par la justice d'avoir participé ou d'avoir eu vent des montages financiers occultes qui auraient permis à l'argent des commissions du contrat Agosta de revenir en France. Mais pour accuser un président de la République en exercice, un ancien premier ministre ou tout autre responsable ou ancien responsable politique, enfin tout le monde, il faut des preuves. Preuves que la justice n'obtient pas, ou plutôt qu'on lui empêche d'obtenir. L'action du juge Trévidic pour l'obtention de documents étant entravée à plusieurs niveaux par le pouvoir exécutif en raison du sacro-saint secret défense. Tout aussi préoccupant, la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale chargée d'établir les circonstances de l'attentat est contrariée dans son action. Comme en témoigne l'un de ses deux rapporteurs, celui qui était alors député PS et maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve.
Jamais je n'ai été confronté à tant de difficultés pour accomplir une mission d'information parlementaire. Les difficultés auxquelles nous avons été confrontés dans le cadre de ce travail parlementaire sont difficultés de relation avec l'exécutif. Nous avons souhaité obtenir des éléments que nous n'avons pas obtenus et qui auraient pu être très utiles pour faire avancer la vérité, pour l'efficacité de notre contrôle.
Comme quel type de documents?
Des documents qui sont des documents classifiés, par exemple. Et vous aurez la liste des documents que j'ai demandé et la liste des documents, par conséquent, que je n'ai pas obtenus. Lorsque j'ai été rapporteur de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda, j'ai eu à décortiquer 15 000 pages de documents déclassifiés. 15 000 pages. Là, j'en ai pas eu une. On a été confronté à des blocages absolus.
Que pensait tout cela? Et que nous disent tous ces éléments? On sait aujourd'hui qu'à son arrivée à l'Élysée en 95, Jacques Chirac et son ministre de la Défense Charles Millon ont découvert le stratagème des commissions sur le contrat Agosta et qu'ils ont décidé de l'interrompre. Pour autant, est-ce là la réelle cause de l'attentat de Karachi qui a fait 11 morts et 14 blessés parmi les agents de la DCN? Même si à ce jour, aucune preuve formelle ne permet d'établir un lien entre ces deux affaires, un faisceau d'indices et de terribles soupçons incite régulièrement la justice à ne pas écarter cette hypothèse selon laquelle, derrière l'attentat de Karachi, se cache un mensonge d'État.
Tant de pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures ou laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. Faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai chercher dans le livre qui sait auquel de ces versets j'y ai lu, cherche les réponses à ta question, cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue? Mes fils et mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Pourquoi cette pluie? Pourquoi cette eau, ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes quand ils ne savent plus pleurer. Sur nos fronts.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'attentat de Karachi en mai 2002 avec notre invité, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur avec Fabrice Lhomme du livre intitulé Le Contrat et plus récemment, vous êtes revenu sur cette affaire dans votre dernier ouvrage, Le Sens des Affaires, paru en 2014 chez Kalman Lévy. Vous êtes également l'auteur d'un documentaire sur cette affaire intitulé L'Argent, le Sang et la Démocratie. Ça, c'était en 2013. Bon, alors, si pour l'instant, et on le répète, d'où les nombreux conditionnels qui ont émaillé légitimement ce texte, le récit. Pour l'instant, rien n'est prouvé d'un point de vue judiciaire. On a l'impression, et c'est plus qu'une impression quand même, que tout relie l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi à un dossier antérieur, celui de la vente des sous-marins au Pakistan, hein, le fameux contrat Agusta. L'implication des services secrets pakistanais, alors, pour le coup, semble être quand même une chose entendue. Au moins, s'il y a une chose à peu près certaine, c'est celle-là.
Oui, et en réalité, l'histoire de Karachi dans son volet terrorisme, comme vous l'avez dit, il y a deux volets. Ça a d'abord été le récit d'une déconstruction. Il a fallu déconstruire une vérité officielle. La vérité officielle étant, et sur laquelle s'était accordée la France officielle et le Pakistan officiel, c'est Al-Qaïda, forcément Al-Qaïda. Ce qu'on peut comprendre...
Un an des charges. Hein.
Un an, oui et non, je vais expliquer pourquoi.
Enfin, au départ, le contexte géopolitique.
Oui, bien sûr, on est un an après le 11 septembre, il y a les engagements militaires en Afghanistan, en effet, il y a une menace terroriste et Al-Qaïda est leader sur le marché. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Cela étant, la DGSE, dès le lendemain de l'attentat, puis dans les jours qui ont suivi, ont émis des notes qui ont mis au jour une possible piste financière, nous dit la DGSE dès le lendemain de l'attentat, puis, au fil des mois, dit qu'il ne s'agit pas d'Al-Qaïda, que cela ne ressemble en rien, et que l'enquête pakistanaise qui a visé à désigner des militants d'Al-Qaïda derrière cet attentat est une forgerie. Le mot est même, je crois, utilisé dans une des notes de l'agence de renseignement.
C'est quoi, c'est une vraie fausse enquête ?
Ah mais non, mais c'est un cas d'école de construction policière fictive, fausse, pour accuser des gens qui étaient des vrais terroristes, mais on a rajouté une ligne sur leur CV d'avoir commis un attentat qu'ils n'avaient pas commis. Je vous donne juste un exemple pour les accuser. On avait dit qu'on avait trouvé chez eux du nitrate d'ammonium qui était la substance qui a permis de préparer la bombe qui a tué dans l'attentat de Karachi. Or, il est établi au dossier que ce qui a fait exploser le 4x4 le bus, c'est de la TNT et pas de n'importe laquelle, c'est de la dynamite militaire pakistanaise.
Donc c'est pas la première
donc, aujourd'hui, il est acquis que les services pakistanais et sa branche liée à l'islamisme radical, puisque dire islamiste au Pakistan, ça veut tout et rien dire. Il y a au sein même de cette redoutable agence pakistanaise, l'ISI, la CIA pakistanaise, il y a des fondamentalistes, il y a des gens qui soutiennent le terrorisme islamiste pour des raisons internes, la guerre avec le Cachemire et l'Inde. Et donc, on est face à un Frankenstein, un monstre en réalité qui mêle à la fois des agents du terrorisme international et des agents de l'État pakistanais.
Et pourquoi le juge Bruguière, pourquoi la justice au départ, avant les révélations, les vôtres d'ailleurs, s'enferme-t-il, pourquoi le juge Bruguière s'enferme-t-il dans cette piste Al-Qaïda? C'est parce que pour lui c'est tellement logique, ou parce qu'on lui cache des choses, ou parce qu'il ne veut pas aller plus loin? Qu'est-ce qui se passe?
Non, il n'est pas allé plus loin. Moi je suis pas arbitre des élégances, mais mon travail m'a mené, et avec d'autres, à être extrêmement sévère sur la conduite de l'enquête par le juge Bruguière, qui a fait en sorte et qui a déployé beaucoup d'énergie à ne rien découvrir, alors qu'il avait dans son dossier des éléments qui auraient dû piquer sa curiosité sur une autre piste que la piste islamiste. Il y avait notamment un rapport qui avait été rendu par un agent spécial américain, Randall Bennett, qui était présent au moment du drame, dont l'un des collaborateurs dit que c'est les services pakistanais qui sont impliqués dans l'attentat de Karachi. Rendez-vous compte que le document dont vous avez parlé, le rapport Nautilus, est un rapport de la DCN, qui est dans les archives de la DCN, entreprise d'État, qui n'a pas cru bon le communiquer à la justice, mais dont un certain nombre de gens, si nous l'avons découvert, c'est que d'autres dans l'appareil d'État étaient au courant. Et nous avons découvert depuis que d'autres collaborateurs des services de renseignement, des honorables correspondants, voire même des gens des services des renseignements, avaient émis strictement les mêmes hypothèses quant à éliminer l'implication d'Al-Qaïda dans ce dossier.
Alors, je résume. On tue des gens d'une entreprise française présente au Pakistan, la DCN, parce que des commissions qui devaient être versées, comme ça se fait habituellement, ça ne justifie pas, mais enfin ça se fait comme ça habituellement, n'auraient pas été versées, parce que le pouvoir qui est arrivé ensuite, celui de Jacques Chirac, aurait coupé les robinets. Ça, c'est l'hypothèse retenue également ou pas?
Ça, c'est l'hypothèse qu'en son temps, le juge Trévidic avait dit cruellement logique après avoir abandonné officiellement et levé un mandat d'arrêt, d'ailleurs, contre un cadre d'Al-Qaïda qui avait été impliqué par le juge Bruguière. C'est à ce jour, en termes de mobile, une hypothèse qui n'est pas vérifiée judiciairement. Ouais. Cela étant, le rapport Nautilus et le rapport, le mémorandum de l'ancien directeur financier de la DCN, Gérard-Philippe Ménayas, ont ouvert la piste de la corruption, qui ont permis de comprendre qu'en écartant la piste Al-Qaïda, on aurait dû se replonger dans ce qu'a été les contrats d'armement à l'époque où M. Balladur était le Premier ministre. Et c'est un peu comme les poupées russes, comme des poupées gigognes qu'on ouvre les unes après les autres. Et là, en s'intéressant à cela, on découvre une fantastique histoire de corruption franco-française qui aujourd'hui vaut à au moins 6 personnes d'avoir peut-être dans quelques mois, probablement quelques années pour des raisons de procédure, à être jugées devant le tribunal correctionnel qui sont mises en examen, parmi lesquelles la doublure du Premier ministre de l'époque, vous l'avez cité, Nicolas Bazir, qui était son directeur de cabinet, la doublure de François Léotard, qui était ministre de la Défense, je parle de M. Donne-Dieu de Vabre, qui était son conseiller spécial, la doublure de Nicolas Sarkozy, qui était ministre du Budget et qui est soupçonné d'avoir porté les valises du réseau de M. Taquedine, M. Thierry Gobert, et également le réseau des intermédiaires dont le fameux monsieur Taquedine. Et le chef de Zia Taquedine, dans cette grande corruption, c'est-à-dire on touche des commissions pour en reverser à des gens et surtout peut-être à celui-là même qui vous les a donnés, à savoir l'État corrompu est un État corrupteur. Ouais. Le chef de ce réseau-là s'appelait Ali Ben Moussalam, c'est un Saoudien. Monsieur Taquedine était à l'époque un exécutant, il prendra de l'ampleur après. Monsieur Moussalam, qui est mort en 2004, était à la fois le grand argentier de cette corruption liée aux Balladuriens, mais aussi, et là c'est intéressant pour notre dossier, un financier d'Al-Qaïda. Ah. C'est ce qu'a établi, noir sur blanc, la CIA et le département du Trésor américain, comme nous l'avons raconté, comme d'autres journalistes, je pense à Sylvain Besson du Temps, l'avait raconté d'ailleurs bien avant Mediapart. Donc, on voit une intrication entre la politique, la corruption, le terrorisme international, et devinez quoi, dans les archives des services de renseignement français, la DST aujourd'hui, la DCRI, l'enquête sur Monsieur Moussalem a disparu.
Tiens donc. Alors, dans la série À qui profite le crime, on arrive au deuxième volet. Alors, celui-là, avec des conditionnels plus forts que tout, parce que vraiment, faut être conditionnel. Est-ce que une partie de cet argent en rétrocommission aurait financé la campagne d'Edouard Balladur en 95. Alors ça reste à prouver.
Alors, moi je suis moins dans le conditionnel, mais il vous honore. Mais en fait, on n'a jamais vu ça dans l'histoire des marchés d'armement par rapport à ce qui s'est passé sous le mandat d'Edouard Balladur. C'est-à-dire que un an avant la campagne présidentielle, il y a une frénésie de signature de contrats d'armement de manière accélérée et dérogatoire au regard des canons en la matière. Et sur ces contrats d'armement, il y a le contrat pakistanais dont on parle, mais il faut lui adjoindre trois autres contrats avec l'Arabie Saoudite, dans lesquels on voit toujours le même réseau se greffer sur les négociations, ce qui est du jamais vu. Au dernier moment, un réseau mené par le fameux Moussalem avec monsieur Takidine se greffe pour toucher des commissions absolument faramineuses. On parle de centaines de millions d'euros quand même. Prendre l'argent au dernier moment, et on trouve cet argent partir dans des paradis fiscaux et revenir en France. On a retrouvé ça. Aujourd'hui, M. Taguédine lui-même, dans le bureau du juge Van Drunbeek, a reconnu, après de très nombreuses investigations journalistiques, policières et judiciaires, qu'il a remis cet argent, les valises, les bonnes vieilles valoches, aux amis de M. Balladur et de Nicolas Sarkozy. Et il y a évidemment une responsabilité de l'État français et des ministres de l'époque dans ce schéma corruptif.
Alors, schéma corruptif confirmé, figurez-vous, par l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, qui avait été interviewé sur ce point précis. Voilà ce qu'il répondait.
C'est vrai qu'il y avait un certain nombre de bruits qui circulaient en France, comme quoi des contrats donnaient lieu, non pas à des commissions, mais à des rétrocommissions. Ce qui est complètement anormal, c'est la rétrocommission. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette commission qui soit rétrocédée à celui qui vend pour pouvoir financer des activités qui peuvent être diverses, et qu'à ce moment-là, il y a détournement, et c'est ce que Jacques Chirac voulait complètement supprimer.
Alors, Charles Millon ou Alain Richard, qui est aussi ancien ministre de la Défense dans le gouvernement Lionel Jospin, ils ont découvert l'existence des commissions. Vous les avez rencontrés tous les deux, crois. Comment explique-t-il, comment se justifie-t-il de ne pas avoir alerté la justice plus tôt?
C'est terrible. Par exemple, le ministre de la Défense, Alain Richard, socialiste, savait tout, à peu près, de ce qu'étaient les montages occultes, des commissions et des rétrocommissions. Nous avons même publié sur Mediapart les rapports de Matignon et des services de renseignement à l'époque où il les lisait. Et il a dit oui, nous savions tout ça, mais je n'ai pas saisi la justice parce que je ne voulais pas qu'on considère que la gauche lance des boules puantes contre la droite. Voilà ce que ça dit d'une forme d'impensée dans une partie de la classe politique. Ouais. C'est que la justice ne viendrait pas servir un bien commun qui dépasse de très loin les lignes partisanes. L'argent de la corruption, c'est un argent dont les gens de gauche comme de droite et d'ailleurs sont victimes. Nous sommes tous, quelles que soient nos sensibilités politiques, victimes de la corruption, mais des victimes invisibles. Eh bien, non. Alors que le code de procédure pénale impose à toute personne détenteur de l'autorité publique, c'est son article 40, de saisir la justice quand vous êtes témoin de faits qui sont susceptibles de relever du délit, de saisir le procureur de la République. Cela n'a pas été fait parce que ça n'était pas considéré comme quelque chose d'important. Quant à Charles Millon, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que les Chiraciens ont découvert, grâce à ces mêmes services de renseignement, grâce à ces mêmes officines d'État et à certains documents qui ont survécu au mouvement politique, qu'il y avait eu cette corruption sous le mandat de M. Balladur, et ils ont fait quelque chose d'absolument rarissime, voire à ma connaissance jamais vu dans l'histoire des contrats d'armement. Ils ont stoppé le robinet des commissions, parce qu'on ne donne pas tout d'un coup en termes de commissions. On verse une première fois, et puis après ça se verse pendant des années et des années, voire des décennies, les versements de commissions. Donc c'est un robinet qu'ils ont coupé pour se venger des Balladuriens. Rappelez-vous
le drame shakespearien.
Le drame, exactement. quasiment de Grèce antique entre les Chirakiens et la nuit 30 ans, les Baladuriens. Celui qui a le plus perdu dans l'interruption de versement des commissions, nous revenons sur lui, c'est le cheikh Ali bin Moussalem, le Saoudien, qui était l'homme de la corruption sous Balladur, qui est aussi celui qui était un des financiers d'Al-Qaïda. Je trouve que c'est une piste intéressante, et c'est une piste que le juge Trévidique, avant de quitter le pôle antiterroriste de Paris, c'est la piste principale sur laquelle il travaillait. C'est comme ça qu'on a découvert qu'au sein des services secrets français, en tout cas des services secrets intérieurs, le dossier de M. Moussalem a disparu. Ce qui est quand même extrêmement... coquet, baroque, extravagant.
Absolument. Alors, Nicolas Sarkozy, dans tout cela, on l'a entendu tout à l'heure, alors, dans son style, qui est le sien, c'est... qu'est-ce que vous me dites, là ? C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Mais enfin, derrière tout ça, il y a quoi ?
Bah, Nicolas Sarkozy, c'est très embêtant pour lui, cette histoire. Judiciairement, j'en sais rien. La Cour de justice de la République a été saisie des cas de Monsieur Balladur et Léotard. Et le nom de Nicolas Sarkozy est également cité, puisque le juge Vendrumbeck dit qu'il doit être placé sous le statut de témoin assisté dans ce dossier. Dans l'appareil d'État et gouvernemental, Nicolas Sarkozy, en tant que ministre du Budget, n'était pas le ministre le plus en pointe sur les contrats d'armement. C'est évidemment M. Balladur à Matignon et ses hommes, M. Léotard, ministre de la Défense, et ses hommes. Mais, comme vous l'avez rappelé, le ministre du Budget a un rôle essentiel dans la signature des contrats. Et on a découvert, documents à la pluie, donc M. Sarkozy peut monter, descendre, dire ce qu'il veut dans ce dossier. Nicolas Sarkozy, contre l'avis de son administration, et de deux directrices de son administration, a signé le versement dérogatoire de commissions occultes sur un marché saoudien dont le nom, ça ne s'invente pas, est mouette. On vole avec les mouettes. Le versement de commissions absolument faramineuses qui sont précisément celles que M. Taqiyedine a retirées en Suisse, en espèces, et qui sont revenues en France.
Et puisque vous parlez de M. Taqiyedine, on va l'écouter. On rappelle, c'est ce mystérieux homme d'affaires franco-libanais qui aurait servi d'intervenaire dans la transaction du contrat Agosta. Alors, en termes d'information, ce qu'il dit ne fait pas tellement avancer les choses, parce que il dément, mais c'est intéressant de l'écouter, lui, et dans le rôle qu'il a tenu.
Ni j'ai ouvert un compte pour Balladur, ni j'ai ouvert un compte pour Gobert. Je veux une seule preuve que j'ai été à une banque, que j'ai retiré pour Thierry Gobert une somme quelconque. Arrêtez de jouer le jeu du juge. Il n'a aucune preuve. Il a un dossier vide, aussi vide que sa tête.
Bon, voilà. Oui, c'est classique.
Moi, j'avais été traité d'animal malade par M. Taqiyedine. Non, mais ça, c'était à une époque où il démentait l'évolution du dossier judiciaire et puis son passage en prison, je crois, l'a fait un peu réfléchir. Aujourd'hui, il a dit noir sur blanc, sur procès-verbal, l'inverse. Il a reconnu ce que les juges ont pu documenter, le juge Vendrumbeck, grâce à une enquête incroyablement méticuleuse, qui a quand même permis de retracer tous les flux financiers. Alors, le juge, dont la tête serait vide et dont il parle, s'est beaucoup rempli de documents couverts par le secret bancaire, puisqu'on a découvert, oui, M. Taqiyedine retirait de l'argent sur des comptes offshore non déclarés, oui, il les ramenait en France, il s'est même fait choper à une période aux douanes, avec de l'argent caché dans une enveloppe dans sa voiture, à la frontière franco-suisse, et oui, bien sûr, que lui-même reconnaît aujourd'hui avoir reversé de l'argent aux hommes aux Balladuriens, et les Balladuriens ne sont jamais que des futurs sarkozistes.
Et ça donne encore plus de poids à ce qu'on vient d'entendre. Comment, avant de dire oui, c'est vrai, on dit ben non, c'est pas vrai.
Oui, mais ça, ça fait partie du jeu.
Bien sûr,
je veux dire que le démenti, ça fait partie du jeu de la justice. Et d'ailleurs, vous savez, le droit français consacre le droit au mensonge pour les personnes mises en examen.
Bon, toute dernière chose, Fabrice Arfim, il reste 30 secondes. Quelles sont les pistes ou la piste à explorer ? Désormais, celle de M. Moussalem, enfin, c'est compliqué.
Ben, M. Moussalem, il est mort, il est malade, mais c'est la piste là, évidemment la plus intéressante. Le problème, c'est que M. Trévidique, dans le volet terroriste, est parti, a quitté la galerie Saint-Éloi, le pôle antiterroriste de Paris, et donc il faut qu'un nouveau juge reprenne tout le dossier. Et ce sont des tomes, vous imaginez le temps que ça va prendre, mais sur le volet financier, il aurait dû y avoir un procès dans quelques mois, et pour des raisons de procédure, la Cour de cassation a demandé à ce que de nouveaux magistrats se repenchent sur le dossier. Ça va encore prendre des années.
Pourvu que ça arrive à destination.
Ça nous concerne tous.
Merci infiniment, Fabrice Arfim, pour toutes les précisions que vous nous avez apportées en complément de ce récit. Merci, au revoir.